pour investir. Arbitrage.
Et nous retrouvons Alexandre Baradez d'IG. Bonjour Alex.
Bonjour Antoine.
Bon, un CAC 40 qui sait globalement pas où il va. On parvient à sauver les 8000 points. Plus 0,61% ce matin après une baisse assez marquée hier, puis sur de gros volumes. On a l'impression qu'on ne sait pas où on va, mais qu'on a des points d'équilibre un petit peu partout. Du côté des marchés américains, de plus en plus du côté des marchés européens, on arrive à identifier des supports et ça nous protège pour le moment, on a l'impression.
Oui, c'est assez stable en Europe, mais stable dans une zone un peu molle, on va dire. Et on voit qu'il y a cette différence phénoménale en fait, de comportement qu'il y a eu, en tout cas, ces dernières semaines, entre les marchés américains, surtout tirés par la tech, et puis une Europe plus diversifiée, moins sensible à la technologie, et puis surtout une Europe plus sensible à la question énergétique. On est beaucoup plus dépendant de nos importations d'énergie que les États-Unis. On a eu toutes ces révisions à la baisse, des croissances en Allemagne, des chiffres de performance pour la croissance européenne au T1 qui était assez moyenne pour la France notamment. Donc on voit que les marchés intègrent ça, en fait, intègrent ce risque économique lié à une situation géopolitique qui s'encroûte. On a vu hier, encore une fois, alors c'est pas une reprise flagrante des affrontements et autres, mais c'est une situation qui est sclérosée, dont on voit pas le bout pour l'instant. Hier soir, Donald Trump parlait encore de potentielles 2 à 3 semaines nécessaires pour voir la fin de ce conflit. Il disait la même chose il y a à peu près 4 ou 5 semaines. Donc c'est ça, l'Europe l'intègre bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez frappant, en fait. Assez frappant, c'est qu'on comprend pourquoi les marchés américains, historiquement et encore ces derniers mois, ont mieux performé. On a des croissances bénéficiaires, il faut le rappeler, parce que c'est ça qui est le moteur des marchés. Croissance bénéficiaire supérieure à 20% au premier trimestre aux États-Unis. Et les analystes estiment que ce sera encore le cas, plus de 20% pour le deuxième trimestre.
Et là-dessus, la high-tech américaine a été... incroyable.
Oui. Ce que je voulais toucher du doigt, c'est qu'en Europe, effectivement, nos croissances bénéficiaires, elles sont inférieures quasiment à 5%. Grosso modo, c'est entre 3 et 5% de croissance bénéficiaire. Donc, on a des entreprises américaines qui, en croissance bénéficiaire, affichent des performances 4 à 5 fois supérieures à l'Europe. Donc, on peut comprendre que ce soit plus calme en Europe et plus dynamique aux États-Unis. Là où, en revanche, je mets un petit bémol sur la partie américaine, c'est que malgré ce conflit qui dure, malgré ce pétrole qui reste au-delà de $100 aux États-Unis, malgré... Et on le voit aussi, des consommateurs américains, alors on peut dire, oui, mais ils ont quand même consommé au premier trimestre 1,6% de croissance quand on regarde les chiffres du PIB. Sauf que, effectivement, vous faites la bonne tête, c'est-à-dire, c'est pas énorme pour une croissance américaine annualisée en plus, donc en termes de consommation, sachant plus qu'au premier trimestre, aux États-Unis, c'est là où les Américains ont reçu leur fameux remboursement d'impôts, qui cette fois-ci était plus élevé que les années précédentes.
Et puis on le voit sur les indicateurs de confiance, ça fait à plusieurs mois, c'est cata. C'est vraiment pas bon.
Alors, ils consomment quand même un peu, c'est pas donc, ils sont pas en contraction de consommation.
Plus le sentiment qui...
Voilà, c'est le sentiment, mais et là où moi j'ai quelque chose qui j'ai du mal à projeter dans les mois qui viennent, c'est que les analystes à Wall Street continuent de considérer que les croissances bénéficiaires vont être là au T2 ou T3, comme si tout ce que nous voyons au Moyen-Orient n'aurait aucune empreinte sur l'économie américaine. Et c'est là que je suis un peu plus réservé. Est-ce qu'effectivement, et c'est là après qu'on parle des multiples de valorisation, est-ce qu'on n'est pas un peu trop en avance dans les anticipations pour le T2 et le T3 du côté des analystes de Wall Street? Parce que pour l'instant, cette guerre n'est pas encore soldée, parce que les effets inflationnistes sont là, parce que les banques centrales ne parlent plus, notamment côté Fed, éventuellement de rebaisser les taux. On est beaucoup plus à l'équilibre. Est-ce qu'on doit les relever ou les baisser? On ne parle pas des relevés pour l'instant, mais le discours est quand même beaucoup plus symétrique depuis quelques semaines au niveau de la Fed.
Et alors, il y a un actif, il nous reste une minute pour en parler. Sur le marché obligataire, il y a quand même des cotes d'alerte. Il y a Gilles Mouek d'AXA, je le dis souvent, qui, il y a 2 semaines, nous disait « Non, franchement, que le 10 ans allemand soit au-dessus de 3%, ça me chagrine. » Il le disait comme ça. Ouais. Et là, on a le 30 ans américain qui est au-delà des 5%. Ouais. Partout, on a des petites cotes d'alerte qui commencent vraiment à apparaître.
Et oui. Et pourquoi ces taux sont si élevés? Parce qu'effectivement, il y a les effets liés à la hausse du pétrole sur l'inflation. On voit que l'inflation est un peu repartie en Europe. Alors, je ne crois pas, encore une fois, du tout au scénario post-Covid, une inflation galopante ou autre. Ça, non. Mais le scénario, effectivement, non plus la stagflation, ce n'est pas le scénario que j'ai en tête, mais qui s'en rapproche un peu. Croissance assez molle, inflation assez forte qui fait que les banques centrales ne vont pas relever les taux comme des folles, mais peut-être une hausse quand même à l'horizon pour la BCE et la Fed, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire, mais n'arrive pas en tout cas à les baisser pour l'instant. Ouais. Donc ça veut dire qu'effectivement, vous avez des coûts d'emprunt pour les pays qui restent élevés, vous avez des coûts de crédit également, il faut bien penser à ça. Aux États-Unis, quand vous parlez effectivement d'un taux qui est proche de 5 ans, amusez-vous à regarder chez vous sur le graphique à quoi ressemblent les taux de crédit aux États-Unis hypothécaires à 30 ans par rapport au taux long américain. C'est copier-coller. Ouais. Ça se suis parfaitement, et ça réagit au jour le jour. Donc tous ces coûts de crédit aux États-Unis, ces taux qui restent élevés, ces taux longs qui restent élevés, ben, ça renchérit les coûts du crédit aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'hier, Trump, on l'a entendu dans son intervention, a dit les taux sont trop élevés aux États-Unis, faisant référence à la Fed. Mais ils sont trop élevés parce qu'effectivement, derrière, l'inflation est toujours proche de 3%. Donc la Fed n'a pas les bases aujourd'hui, et je ne crois pas au miracle de Kevin Walsh, en fait. Hein, je n'y crois pas. Il ne pourra pas baisser les taux dès son arrivée à la tête de la Fed, tant que les signaux inflationnistes restent ceux qui sont aux États-Unis sur l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire proche de 3%.
4,43% pour le 10 ans américain, donc 3,07 pour le 10 ans allemand, 3,73 pour nous. Hein, ça commence à piquer aussi. Merci beaucoup, Alexandre Barthez, d'IG.